Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Bonjour monsieur Fernand Lopez, comment ça va?
Très bien, merci mon ami, mon cher ami. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui?
Bah écoute, ça va, mais bon, on va être honnête, ça y est, il y a eu l'annonce officielle, UFC Paris, Sergei Spivak contre Cyril Gane. Je dois te l'avouer, bon, pas trop hypé sur ce coup-là.
Oui, honnêtement, moi non plus, je suis pas hypé. C'est juste... Baf.
Un autre jour de boulot, quoi.
Voilà, je suis pas hypé parce que... Bon, c'est... Attention, beaucoup de respect pour l'adversaire. Le niveau est solide. Comment dire? Il pourrait poser des problèmes à Cyril par sa lutte, ou plutôt j'allais dire son judo. Il a des mouvements très des mouvements qui sont forts, pas compliqués, simples, au Sotogari ou à Haigoshi, simple, mais qu'il fait souvent, qu'il a plus d'habitude de faire. Il a un très bon contrôle bras sous l'essai. Quand il met la main dessus, il montre qu'il est fort. Même son jab est bon, il a un très bon jab. Il est bon quand il décide d'aller à la bagarre. C'est pas la bonne chose à faire avec Cyril, bien évidemment, de bagarrer. Mais s'il y a lieu de bagarrer sur une courte phase et tout, il pourrait faire mal. Mais le titre du combat en lui-même ne m'hype pas. Mais c'est la chose à faire. C'est la chose à faire parce que.
Et pourquoi c'est la chose à faire? Parce que c'est vrai que les gens s'attendaient à Pavlovitch, mais je pense que la plupart des fans n'ont pas les éléments que tu as, évidemment.
Bon, vous avez bien vu que Cyril souhaitait Pavlovitch. Moi, je souhaitais Pavlovitch. Cyril s'en moque et lui prend ce qu'il y a. Mais en tout cas, moi, j'aurais souhaité Pavlovitch parce que c'est pas que ça tombe en avant. Cyril, il n'y a pas en avant. C'est ça le problème de l'en avant. Tomber en avant à une limite quand tu deviens celui qui est devant. Concrètement, Cyril, à part John Jones, personne n'est devant lui sur la planète. Et donc, forcément, il va falloir regarder derrière. Donc, en regardant derrière, celui qui était le plus proche, c'était Pavlovitch. Mais le raisonnement du management, c'est pour ça que je trouve que je kiffe ma position et mon rôle. C'est très sous-coté, le rôle de manager et entraîneur. C'est le truc le plus sous-coté de l'histoire du MMA. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est que de capter les enjeux et de pouvoir croiser les enjeux avec le modèle de performance et l'entraînement. C'est génial. En réalité, c'est que le fil conducteur, ça reste l'or, ça reste la ceinture. Pour arriver sur la ceinture, le meilleur moyen, c'est toujours de gagner. Mais en ce moment, la narration veut que, c'est même pas la narration de manière officielle, Hunter, qui s'occupe des matchs des grands combattants, m'a dit « Likely, on préfère conserver Pavlovitch pour faire le dernier combat et le remplaçant de Stipe contre Jones parce que les deux vont en retraite. Les deux ont déclaré à la fin de leur combat, ils prennent la retraite. Du coup, stratégiquement, on aura du mal à trouver les gens rankés tout de suite. Même si le combat t'excite moins, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu attends, Tu ne sais pas ce qui peut se passer. La tente a toujours été favorable pour Cyril tant qu'il est vert. Tant qu'il est vert, il n'est pas à l'abri d'être appelé à la dernière minute pour X ou Y raison. Parce qu'il a toujours été monsieur 8 sur 13 combats. Il n'y a pas une fois où il a réfléchi ou hésité. Des fois, c'est tombé bien parce que je demandais, mais souvent, c'est tombé bien parce qu'on acceptait juste. Et donc, tout ce que tu dois faire, je comprends que tu veuilles Pavlovich, mais nous, pour notre organisation, on a besoin de garder Pablo propre pour faire, à un moment donné, un gros chiffre quelque part. Maintenant, tout ce qu'on te demande, c'est, tu peux gréver et dire, bon, je ne vais pas l'affronter parce qu'il est trop derrière moi, je vais attendre quelqu'un de fort. Et tu ne vas pas savoir ce qui va se passer parce que tu seras au rouge. Si tu es au rouge et qu'il y a une ouverture, tu ne vas pas entrer. S'il y a une ouverture pendant que tu es vert, tu vas rentrer. Donc le calcul était simple, c'est de dire on va mettre de l'activité, on va aller chercher cette victoire. Je redis encore, rien n'est gagné. On sait aujourd'hui, honnêtement, si on m'avait posé la question, est-ce que je pense que John Jones peut battre Cyril? Bien évidemment, j'aurais dit oui. Si on m'avait dit, est-ce que John Jones peut battre Cyril de cette manière, ou en tout cas, est-ce que Cyril peut perdre de cette manière? Mais jamais de la vie. C'est vraiment l'instant, le cauchemar. C'est, tu as une opportunité, tu te dis, t'es bien. La minute après le combat, tu es entré dans un tunnel de cauchemar. Et ça, on sait que tout est possible. Du coup, aujourd'hui, quand on aborde un combat, on aborde avec toutes les possibilités, tout le champ des possibles. Et donc, ça met beaucoup plus de pression parce que personne ne l'attend en réalité, Spivak. Sauf qu'il reste dangereux. Et donc, du coup, lui, il a tout à gagner. On n'a pas grand-chose à gagner, sauf le fait, comme je dis encore, que quand je prends une petite organisation comme Arès, ceux qui s'en sont souvent sortis, c'est ceux qui sont propres et prêts. Quand tu as un palmarès vert et que tu es disponible à combattre, t'es bien. Quand tu te mets en situation de, par exemple, Léon Sédouard, qui a fait quasiment 2 ans sans combattre parce qu'il l'attendait, il exigeait, du coup, tu perds le temps. Du coup, tu rates des opportunités de ceinture. Et donc, aujourd'hui, on veut profiter de cette occasion pour déjà s'entraîner et rester, parce que chaque combat est un entraînement. Chaque combat qu'on fait est un entraînement. Donc, ça permet toujours de rester en activité. Ça permet de faire vivre ce qui se passe autour de toi. La vie d'un combattant aujourd'hui, ce n'est pas que la performance sportive, c'est la hype qui crée autour de lui et le fait d'être sur le référencement de Google, de Twitter, de ce qui se passe dans la réalité. Et surtout, c'est de pouvoir être prêt au cas échéant, parce qu'à tout moment, tout peut se passer. Thomas Spinal peut terminer son combat et faire une très belle performance. Cyril peut terminer son combat et faire une très belle performance. Et les gars se disent, bon, let's go. Parce que il y aura eu un combat quelque part et que ça n'aura pas avancé, mais de l'autre côté, les deux jeunes auront avancé. On ne sait jamais. En tout cas, nous, on choisit, puisqu'on ne peut pas tomber dans l'avant, de tomber dans l'envers.
Et par rapport justement là à Cyril contre Sergey Spivak, est-ce que le combat contre John Jones, on est d'accord, avant le combat, toute la planète MMA, objectivement, c'était du 50-50. Enfin, il y en a certains qui étaient persuadés que Cyril allait gagner, d'autres que John Jones allait gagner. Est-ce que toi, juste là, tu t'imagines, tu vois, est-ce que tu t'imagines t'as dit Spivak gagner? Parce qu'avec John Jones, tu pouvais l'imaginer. Là, pareil, personnellement, moi je vais, petit spoiler, moi, je ne vois pas comment c'est possible, tu vois.
Oh, il te manque de l'expérience.
Alors, vas-y.
Pas moi. Il y a beaucoup de gens qui te disent, je vais au combat et je n'imagine pas la défaite. Moi, c'est que du positif. Il n'y a pas deux solutions, c'est la victoire ou rien. Je déconseille aux gens de le faire. C'est très, très mauvais pour la santé. Il y a un documentaire qui filmait la veille du combat de Jones, en 3-4 jours avant. Et quand on est sorti du combat de Jones, le gars qui filmait le documentaire d'une plateforme a dit, c'est fou. C'est le scénario que tu as imaginé il y a 3 jours quand on parle, on discutait, c'est exactement ce qui s'est passé. Un bon coach doit l'imaginer. Maintenant, ce n'est pas parce que tu l'imagines que tu n'as pas l'objectivité de te dire, mon gars est prêt, il est bon, on va gagner. On peut positiver, mais garder dans le coin de sa tête, si tu passes, si tu essaies de traverser l'autoroute, n'importe comment, tu peux te faire renverser. C'est une probabilité qui existe. Bon, maintenant, tu peux te dire, je suis un génie, je cours vite, des fois, je traverse l'autoroute, rien ne m'arrive. Un jour, tu peux traverser l'autoroute. Si tu n'es pas sur un passage clouté avec le bonhomme vert, tu vas te faire rouler dessus. On est passé sur un passage, il n'y avait pas le chemin clouté. Et puis, voilà, il n'y avait pas de bonne unité rouge. On s'est fait rouler dessus. Ça existe. Et quel que soit, celui qui pense que quand tu penses ça et ce que tu as un mental faible, il se trompe tellement. Celui qui pense qu'un gars comme Cyril pourra aller combattre avec l'idée dominante dans sa tête qu'il va perdre est un fou. C'est juste un fou. Quand tu as fait 13 combats de MMA, dont 11 avec victoire, tu n'es pas, cette notion de peur, pas peur n'existe pas. Il s'agit juste de connecter, déconnecter. Tu rentres en forme dans un combat et des fois tu rentres mal. Des fois tu es un très bon chauffeur, tu conduis et tout se passe bien. Et puis il y a un jour, parce que tu as eu un parasite, un truc, je sais pas pourquoi. Tu es discret, tu ne regardes pas et bam, tu touches le pare-choc avant et tu dis, mais comment ça peut m'arriver? Moi, je suis tout le temps concentré, je suis tout le temps bien. Bah, ça arrive. Et c'est juste comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ne pas espérer que le gars, il a été très courageux ou très peureux, ça n'existe pas. Simplement, aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, enfin, j'ai été raconté un jour en disant que quand Cyril était à sa troisième victoire au TKO, la première des choses que je lui ai dit quand on est rentré dans la chambre d'hôtel, c'est Cyril, un jour, tu vas perdre. Un jour, si tu vas perdre, ça va te faire mal. Ne pense pas que. Il m'a dit, bah, oui, le King, bah, je suis pas bête. Je sais que je vais perdre un jour. C'est comme ça, je suis pas bête. Mais tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu réellement et que ça te brûle et que tu sens la douleur. Tu fais des cauchemars des jours et des nuits. Et là, tu te rends compte. Donc aujourd'hui, nous, on vit avec ça. On vit avec le fait de gagner, de savoir qu'on gagne souvent. On gagne plus qu'on le perd. Enfin, voilà quoi. En général, c'est ça, hein, que ce soit Nassourdine ou Cyril, on gagne beaucoup plus qu'on le perd. On est sur 11 victoires et 2 défaites. Mais Cyril l'a toujours dit sur ses combats, bon, moi, je sais que ça a pas mal se passer. Mais c'est pas parce qu'il est faible. C'est parce que tu n'es pas un grand guerrier parce que tu penses que tu ne perdras jamais. Même dans même dans le passé, même dans la préhistoire, les mecs qui allaient dans le Valhalla, Valhalla, c'est justement fait pour des gens qui disent, je vais en guerre, mais il est possible que je parte. Et si je pars, je veux juste avoir mon épée dans la main pour entrer dans le royaume de Valhalla. C'est ça l'idée. Et c'est pas la notion de dire, mais moi, je suis invincible, je suis insurmontable, je ne perds jamais. Moi, je suis un guerrier. Ça, c'est du pipeau. Ça, c'est. Les gars, quand ils le disent, ils n'ont jamais combattu. Les gens qui disent, ouais, mais il est fou, pourquoi il dit qu'il aime les gens, quoi. Enfin, il n'y a pas de rapport. Je peux aimer, mais casser des bouches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, concrètement, est-ce que je visualise un Spivak qui pourrait gagner? Oui. Et c'est ça le moteur qui me fait bosser. Ce qui me fait travailler, c'est la terreur de pouvoir perdre le combat. C'est ça qui me fait ne pas dormir. C'est ça qui me fait bosser. C'est ça qui fait que Cyril s'élève et qu'il est tout le temps là au taquet à s'entraîner. C'est ça qui fait qu'on met tout en œuvre pour avoir les meilleurs sparring, pour avoir comment dire, le meilleur staff à côté, pour avoir revoir, regarder toutes les vidéos de Cyril Gane, pour comprendre depuis ses 13 combats où est-ce qu'il a péché, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui n'a pas réussi, comment on a fait, est-ce que notre histoire tient la route, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on fait. Ensuite, aller regarder tous les combats de Spivak pour comprendre comment il fait, comment ça se fait qu'un mec comme Spivak, qui d'apparence ne paraît pas si épais, si fort, puisse mettre le bras dessous un gars comme Greg Hardy et puis lui passer un tour de hanche. Et puis, enfin, on essaye de comprendre, on essaye de travailler parce qu'on a peur de ce truc où, dans un monde parallèle, Spivak pourrait mettre la clim à Bercy.
Et lors du précédent combat contre John Jones, tu m'avais parlé de tout ce travail mental que tu avais fait avec Cyril. Là, on est dans des situations où contre John Jones, c'était, bah, je vais pas dire mission impossible, mais vous allez tenter ce que personne n'avait jamais réussi à faire contre John Jones. Là, c'est complètement l'inverse avec Spivak où il faut faire le taf parce que bah il a déjà perdu, comme tu as dit, il faut éviter la clim. Est-ce que vous avez renforcé ce travail-là ou est-ce que c'est quelque chose de différent?
On a commencé à le renforcer. On a fait une bonne pause où on n'a pas revu ce travail-là, mais où on a juste discuté entre nous. Aujourd'hui, c'est marrant parce que la promotion du combat a commencé. Aujourd'hui, il a eu un média day super long avec beaucoup d'interviews aujourd'hui. Demain encore, il aura beaucoup d'interviews. Et c'est marrant parce que c'est pendant les interviews que tu te rends compte de ce qui s'est passé. Donc, il racontait un peu sur des interviews, nos discussions juste après notre retour. Quand on est dans l'appartement à Los Angeles, quand on est dans l'appartement le lendemain matin, et on se met à discuter, il est là en mode, c'est fou, j'ai déconné, et puis on discute, et puis ça discute, mais non, écoute, c'est le combat. Voilà, et tu, on se met à chercher un peu à quel moment tu sens que qu'est-ce qui s'est passé en gros. Enfin, est-ce que durant la marche, il y a quelque chose qui t'a fait flipper? Est-ce que durant l'attente de John Jones, quelque chose t'a gêné? Est-ce que tu as pris conscience de quelque chose? Et on cherche. Vraiment comme si tu as perdu tes clés et tu fais une marche arrière et tu reviens sur tes pas pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, on va minutieusement, minute par minute, on fait le rétropédalage pour comprendre à quel moment il a senti les premiers trucs qui n'allaient pas. Et il raconte que non, le premier truc où il a senti que ça ne va pas, c'est après le coup dans les parties, quand le combat reprend, il me dit ce que tu racontes là m'a paru évident. Ma garde inversée, parce qu'il est gaucher et John Jones est droitier, n'était pas correct. Mon positionnement n'était pas bon. Ma distance n'était pas bonne. Je ne comprenais rien. Enfin, rien n'était correspondant. Et je me suis vu en mode, j'ai soit une fun que je fais, je vais sur la droite et je reviens avec un bras arrière. Mais sauf que je n'ai pas fait la fun sur la droite et je suis parti en bras arrière. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix. Mais c'est un choix que j'ai fait. Et donc, on essaie de décortiquer pas à pas tout ce qui s'est passé. Bien entendu, décortiquer la phase de lutte ou de soumission qu'il y a eu, on l'a fait, mais là, décortiquer, ça n'a pas de, il n'y a pas beaucoup plus de magie que le fait d'admettre que la personne est plus forte. Faut, des fois, dans la
dans
vie, faut
cette
pas chercher,
situation, dans tous les cas,
voilà,
ça
faut
été
pas chercher,
ouais.
Faut pas chercher plus que ça. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que, tu peux être aussi, où tu peux être aussi bon que tu veux dans un domaine, et puis tu arrives un jour, on va prendre le cas de Kamaru Usman qui arrive, qui combat contre Léon Edwards. Si tu dis à Kamaru Usman, est-ce que tu pourrais parier ta maison que Léon Edwards va t'amener au sol ou pas? Bah, t'es d'accord qu'il met sa maison au calme. Il n'y a pas un monde où Léon Edwards amène Usman Kamaru au sol. T'es d'accord? Ben voilà. Sauf que ce jour-là, ça s'est passé. Il pourrait expliquer ce qu'ils vont. On va lui dire, mais ferme ta bouche, tu cherches des raisons. Enfin, qu'est-ce que tu vas nous expliquer? Il y a Léon Sédoine qui t'a fait tomber, frérot. Tu peux pas expliquer ça dans ta vie. Bah voilà, c'est toujours que dans la vie, à un moment donné, à un moment t'es d'accord avec moi que s'ils font 10 compétitions de lutte, 10 fois ou 9 fois et demi, Ousmane gagne. Mais là, pour le coup, il n'a pas gagné le match de lutte. L'autre l'a fait tomber, il a pris la montée sur lui carrément. Personne n'aurait parié dessus. Personne n'aurait fait ça. Bah, c'est la même chose. Nous, on savait que John Jones peut gagner. On savait que Cyril peut perdre. Mais on ne savait pas que ça peut se passer de cette manière. Ceux qui ont déjà fait quelques compétitions, moi j'en ai fait quelques-unes, des compétitions de grappling. Il y a des fois où tu te retrouves à taper et tu dis pourquoi j'ai tapé, comment je me suis retrouvé là? Comment je me suis retrouvé là? Et je te parle des grands noms, je te parle de Gordon Rand et tout ça. Donc, c'est dans notre analyse, on a essayé vraiment de comprendre pour améliorer, pour une remise en question, pour changer. Et on s'est retrouvé dans cette situation où on s'est dit, bon voilà, il faut comprendre que, un, il a été plus fort. Mais il faut juste retravailler encore parce que le delta est encore grand. La réalité, c'est ça. C'est qu'il n'a jamais arrêté de travailler le sol. Il n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire. On ne fait que ça travailler le sol. Mais il est très difficile dans un domaine précis de transformer un striker en meilleur lutteur que les lutteurs aussi rapidement. Ça prend du temps. Et inversement, c'est pareil. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup hein, en striking et qui vont galérer malgré des heures et des heures et des heures et des heures. Mais tu les mets en striking, tu vois que c'est dur. Tu vois, Ron Grassi, je pense pas que Ron Grassi, quand il vient faire du MMA, il dit je ne vais pas boxer. Je pense qu'il essaie de boxer de toutes ses forces. Mais il y a un retard.
Oui, qui avait été compliqué donc face à Charles Jourdain. Fernand, t'avais parlé aussi il y a quelques mois, je crois, d'un potentiel retour prématuré, on va dire, pour Cyril et de pas attendre ses 6 mois. Est-ce que tu peux parler de ce que t'avais en tête à l'époque?
Ce que j'avais en tête à l'époque, c'était exactement le même combat, mais à Vancouver.
Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et dans ta tête aussi, quel était le plan? C'était donc Vancouver et ensuite Paris,
c'est
j'imagine.
Ça. Okay. L'idée, c'était de se dire Vancouver.
On met les pendules à l'heure et puis ouais.
Voilà, ensuite Paris. Mais ça, c'est une réflexion que j'avais avec la team matchmaking de l'UFC. On s'appelle et on discute. C'est très, j'adore. C'est très inspirant, c'est très pro. Un terme me demande est-ce que t'es dispo? Oui, je suis dispo. Attends, je vais rajouter les collègues et tout, je te rajoute Mick et tout, et puis on se met à discuter. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on attend un gros nom? Parce qu'on hésite encore, on ne sait pas encore si Paris ça va être un pay-per-view ou un fight night. Et donc, moi, je me suis dit, bon, il y a un truc qui nous fait très peur, nous, les coachs. C'est la sortie d'une défaite. Je l'ai vécu plusieurs fois. Défaite contre Derrick Lewis, Francis Ngannou, Derrick Lewis. Non, d'abord défaite contre Cipe. Ensuite, le retour. Tu te dis, est-ce que mon gars est guéri? Est-ce que ça va? Est-ce que la victoire ne l'a pas, la défaite ne l'a pas affecté? Et tu reviens contre Derrick Lewis, tu te rends compte qu'il ne met pas de coup. Donc vous rentrez de là, vous êtes frustré, vous n'êtes pas bien, on se remet en question, on cherche des solutions. Sur le côté psychologique, on se dit, bon, c'est dur, quoi. Enfin, il y a des gens qui commencent à nous critiquer, on dit qu'il a fait le pire combat de l'histoire avec Derrick Lewis. Mais il est déjà aux États-Unis, on cherche une solution, et puis on décide de revenir à la source. Il revient à Paris, on fait un gros entraînement pour qu'il se stabilise, pour aller en Chine, à Beijing, où on va affronter pour la deuxième fois un très grand lutteur. le meilleur lutteur pour moi chez les poids lourds, Curtis Blaydes. Et on va le battre. Et tu te rappelles, Francis, dès que le combat, à peine le combat finit, il s'est retourné, il fait ça. I'm back. I'm fucking back. Ce truc-là, c'est un truc que tous les combattants qui ont connu la défaite, c'est comme ça qu'ils réagissent à la fin de la. C'est ce que Nassourdine a éprouvé sur son combat contre Shabazzalumon. Cette belle photo, il crie très fort. Parce que quand tu sors d'une défaite, il y a les doutes, tu es sous l'emprise des doutes. Et c'est ce que Nassourdine aurait voulu avoir comme plaisir, de l'exutoire, de crier, de sortir ses plaisirs, de dire « je suis de retour ». Malheureusement, il y a ce coup de tête qui va faire que le combat n'aille pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis sûr que si le combat allait jusqu'au bout et que Nassourdine gagnait, il allait crier très fort. Parce que ça fait du bien de vaincre ces démons. On t'explique pendant longtemps que tu es français et que si tu ne vas pas aux États-Unis, tu ne vas jamais pouvoir lutter ou en tout cas améliorer ta lutte. On t'explique que le gars que tu vas affronter est 100% invaincu en lutte. Et finalement, tu ne changes pas de team, tu restes en France et tu fais tomber le gars et tu le bats en grappling alors que le mec en question est de la team qui, soi-disant, transforme les gens. C'est la même team. Hein. C'est qu'aux États-Unis, il y a une team, c'est celle du coach Eric Nixon, mon ami, qui est le coach de Francis Ngannou. Et donc, l'histoire raconte que c'est quand il est allé là-bas que tout a explosé. Et tu as envie de dire, bon, il a des mecs dans sa salle, il devrait les faire exploser en lutte, puisque là, pour le coup, il est de sa salle. Mais il ne réussit pas à battre un gars qui vient de la France et qui lutte comme un Français. Et donc, du coup, si tu te mets à la place de Nassourdine, tu as envie de crier, quoi, en mode « Yes, je vous ai montré que je suis capable de gagner, que je suis capable de gérer mon cardio, de gérer mon énergie, de le battre en boxe, de le battre en lutte, de le battre en grappling. » Si ça t'arrive, bah, tu es obligé de crier. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaitais, moi, en allant au Canada, l'option que j'avais de faire combattre Cyril au Canada, c'était de dire, on va avec un principe de progressivité. Au lieu d'arriver directement où tu pars d'une défaite, John Jones, dure défaite, tu arrives, boum, tu prends un mec qui a le vent en poupe, qui s'appelle Sergey Pavlovitch, qui est super énervé, qui est dangereux et ça peut te mettre un doute, même si stylistiquement parlant, j'aime beaucoup ce combat. Parce que je me dis que Cyril, il sait gérer les mecs qui sont... Cyril Gane sait gérer les mecs qui sont des gros frappeurs. Mais il y a toujours ce facteur X qui fait qu'il peut éteindre la lumière à tout moment. Et tu ne veux pas que ton gars arrive déconcentré face à un mec qui peut éteindre la lumière à tout moment. Et donc, tu te dis, je vais l'amener d'abord en douceur avec Spivak à Vancouver. Il aura encore le droit de se louper parce que Spivak n'est pas connu pour être un grand frappeur. Donc, il y a moyen que s'il se prend une pêche, qu'il tombe, qu'il se réveille, qu'il revienne et qu'il gagne le combat. Ensuite, il se prépare mieux pour arriver à Paris pour donner un bon spectacle devant ses spectateurs en héros parce qu'il est là, parce que rien ne change. Réflexion faite, l'UFC décide de ne pas prendre le risque de faire des combats trop serrés, de laisser couler, qu'on arrive sur Paris, qu'on fasse le show en Fight Night et qu'on voit ensuite comment ça se dessine.
Et t'es content, toi, aujourd'hui, d'être dans une situation où tu sais plus ou moins à toute proportion gardée, je préfère le dire parce que là, je vais faire une comparaison, les gens risquent de me tomber dessus, d'être où, à un moment où Cyril, là, c'est un peu le Georges Saint-Pierre pour le Canada, où on sait que chaque UFC Paris, il y aura Cyril en main event, et donc tu sais, là, dans un avenir, quasiment jusqu'à la fin de la carrière de Cyril, chaque fois septembre, on sait qu'on va être là.
Oui, je suis très confortable et content pour lui, mais j'espère que bientôt, ce sera Nassourdine Imavov, le main event. J'espère que bientôt, après Nassourdine, ce sera Abdullah Abdulimov, le main event. J'espère que bientôt, ce sera Manon Fiorot, le main event, parce qu'elle le mérite et que j'aime beaucoup sa manière de combattre. J'espère que bientôt, dans un futur moins proche, ce sera des jeunes comme Baisangou qu'on verra à main event. Mais voilà, j'espère vraiment que la nouvelle génération va prendre la main à un moment donné. C'est que je suis content pour Cyril aujourd'hui, mais c'est l'histoire du MMA français qui s'inscrit et c'est bien qu'il y ait d'autres Français qui puissent arriver sur des main events à un moment donné. Donc, ouais.
Right. Et dernier point sur cette catégorie des lourds. On en avait parlé en off, mais pas dans le cadre de King Energy, c'est qu'il y a un autre combat qui est prévu, et où là, justement, toi, enfin, on en avait parlé pour le coup dans les épisodes, c'est Curtis Blaydes contre Gelton Almeida, où là, il y avait deux gars qui potentiellement pouvaient affronter Cyril, finalement, ils vont s'affronter l'un contre l'autre. Là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, un, le choix de l'UFC, et deux, ce que tu penses de ce combat, dans le sens, quand je dis ce que tu penses de ce combat, qui va sortir vainqueur, parce que bah c'est, on a l'impression que l'UFC, en tout cas c'est mon impression, qui pousse peut-être l'ancienne génération, quoi.
Bah c'est la réalité, mais c'est parce qu'ils veulent fabriquer un carré. Quand tu as une ligue, tu veux toujours avoir un carré de comment dire, des guerriers d'élite. Là aujourd'hui, Curtis, malgré le fait qu'il soit le meilleur lutteur à l'UFC dans la catégorie, ne s'en rapproche pas de la ceinture, il s'en éloigne plutôt. Cipe et John Jones, qui sont probablement les plus grands poids lourds de l'histoire du MMA, après
Fedor.
Le titre de bon, arrête tes conneries, avec Fedor, après Francis Ngannou.
Mais non, waouh, oh là là.
Quoi?
Je suis choqué.
Mais le mec, il est parti, il est champion.
Oui, non. Alors, Francis, oui, il gagne ses lettres de noblesse. Mais on peut pas oublier Fedor, quand même.
Mais t'es sérieux, il a gagné quoi, Fedor?
Waouh! Fedor, non, mais attends, quand même, non, attends, le Rainier Pride.
Il a gagné quoi dans l'eau? Non. Attention, je redis, ah. je reviens.
Vas-y.
Parce que je sais comment ça va être coupé, ça. Il a gagné quoi, Fedor? Les gens vont péter un plomb. Les gens vont littéralement péter un plomb. Il a gagné quoi, Fedor? C'est pas ce que je vais dire.
Okay.
C'est que dans la nouvelle génération, Fedor a gagné deux fois.
Oui, en MMA moderne.
Mais le MMA moderne, il a gagné quoi?
Oui, bien sûr.
Il n'a pas été champion du Bellator.
Oui. Il n'a ni pas du été Strike champion. Force.
Oui, voilà. C'est que très clairement, il a fait une ligue qui s'appelait. La ligue qui s'éteint là rapidement.
Ah oui, Affliction.
Affliction, il a même Affliction, c'était dur. Il s'est fait stopper sur. Non, c'est lui qui a stoppé quelqu'un qui lui a monté.
Oui,
quelqu'un lui a mis un
oui.
genou sauté.
C'est pas possible. Qui combat toujours, qui arrive heavyweight à l'UFC, que Francis avait battu.
C'est ça. Et donc, tout ça pour dire que aujourd'hui. Moi, je comprends qu'on mette Fedor sur un piédestal, mais regardons avec transparence, en MMA moderne, il a battu, il a gagné quoi, dans quelle organisation? Non. Là, on te parle des gens, des contemporains, là. Concrètement, là, aujourd'hui, on parle des champions de l'UFC, là, tout de suite, Stipe, regarde le nombre de fois qu'il a défendu.
C'était Arlovski. Oui, Stipe, oui.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jones, regarde le nombre de fois qu'il a défendu à light heavyweight et ce qu'il vient faire en heavyweight. Et voilà, c'est de ça qu'on parle concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Non. On rend les honneurs à Fedor parce qu'il a été quelqu'un qui nous a choqués. il était très, très fort. Mais là, actuellement, quand on voit ce qu'ont fait les nouveaux jeunes, on comprend bien qu'il a été dépassé. Il s'est fait mettre KO par Dan Anderson.
Et jusqu'à une Velasquez, tu le placerais où? Tu le passerais aussi en retrait?
Parce que son règne n'a pas duré longtemps. C'est ce que je veux dire, Cain Velasquez, c'est un grand combattant, mais c'est allé vite. Enfin, c'est allé très vite. Sa carrière a été super courte. Je le classe un peu comme Cyril. Il a eu la même victoire écrasante. Il a eu la même victoire. Il a eu la même défaite écrasante contre Francis
Que Kane contre Junior Dos Santos, non?
Non. Cain Velasquez a eu la même défaite écrasante contre Francis Ngannou que celle que Cyril Gane a eu contre John Jones.
Oui, pas au même moment et pas avec les mêmes enjeux.
Oui, parce qu'il n'y avait pas la ceinture en ligne. Mais ce que je vais dire, c'est que tu ne peux pas retenir de Cain comme étant... C'est-à-dire que historiquement, moi... Je suis le plus grand fan de Cain Velasquez. Pour moi, c'est OK.
T'en avais si déjà parlé demande, moi en plus. Ouais.
Si on me demande des talents perdus, voilà un talent perdu. Voilà un talent gâché. Lui, il aurait dû être le coach de tous. Mais il a eu cette défaite-là contre l'un des frères Nogueira à un moment donné, qu'il a vengé d'une très belle manière. Ensuite, ça gagne, ça perd. C'était compliqué quand même, tu vois. C'est pas pareil. Alors que John Jones, c'est chaud. Sipé, même s'il a perdu, il est à 1-1 avec Francis. Il est chaud. Francis, il a fait un run incroyable. Et voilà, il est certes plus champion de l'UFC, mais il a fait un run incroyable et tu peux pas le lui retirer. Donc, si tu veux, moi, je le compte vraiment pour un grand nom. Et aujourd'hui, ce que l'UFC essaie de faire, c'est de ramener Almeida, qui est le futur, clairement. C'est de ramener Thomas Final, qui est le futur, clairement. C'est de ramener Cyril Gane, qui est le futur, clairement. Et de pouvoir les mettre en situation d'échanger avec Pavlovich et du coup créer la nouvelle génération où ça va se batailler et où il y aura beaucoup de combats de poids lourds. Alors que comme ils sont jeunes, ils sont frais, il y aura les combats de poids lourds tous les 6 mois, quoi. Et ça, c'est génial pour le champion.
Et donc, t'as juste pas répondu. C'est clair que oui, ça va être la folie parce que comme tu le dis, John Jones, Stipe Miocic, il leur reste plus beaucoup de temps. Comment tu vois Almeida Curtis Blaydes?
Malheureusement, j'ai l'impression que Curtis Blaydes n'aura pas de solution. J'ai l'impression, attention, c'est un très beau match. Parce que techniquement, on s'est dit que c'est le lutteur qui gagne, parce que le lutteur dicte où va le combat. Mais Almeida va montrer un côté qu'il n'a jamais montré. C'est un voyou. Almeida, c'est juste un voyou. Tu vas voir comment il va combattre. C'est un voyou, il va envoyer des trucs pêle-mêle, genre des high kicks non contrôlés, sans annoncer, exprès. Même s'il glisse, il tombe, que l'autre le suive au sol. Il va envoyer tout ce qu'il y a. Et donc, du coup, quand il y a un mec qui vient en mode, il est kamikaze sur toi et il ne se protège pas, bah tu fais quoi? Tu bats en retraite et tu luttes mal. Tu défends mal la lutte et tu te prends un mauvais coup. Et derrière, quand tu te prends un mauvais coup, alors que tu étais le meilleur lutteur, il te fait tomber. Et on n'a jamais vu Curtis Blaydes bien se défendre sur le dos.
Et voilà. Donc, voilà. Ok. Ouais, non, mais ouais, ça risque d'être
alors,
compliqué.
Alors, Almeida, c'est un cauchemar pour tout le monde.
Ouais.
Okay. Tout le monde dans la division.
Ouais.
C'est un cauchemar. C'est...
D'ailleurs, personne ne parle de lui.
Non, personne ne veut le collab. C'est un cauchemar. C'est t'as un fusil à pompe. Tu tires une fois. Tu as intérêt à le toucher. Tu le rates. Il met les mains sur toi. C'est un ours qui s'est couché sur toi, frère.
Mais ouais, non, mais c'est vrai que lui, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être compliqué. Après, le seul point qui est... Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que l'UFC le monte aussi rapidement? C'est quand même un côté où il y a beaucoup d'inconnus aussi, pour lui.
Non, ils ont besoin de monter les jeunes. Ils ont besoin de monter. Et moi, je comprends ce truc-là de dire ce plafond de verre qu'on met aux gens. Non, faut pas. Faut. Quelle vitesse? Comment on peut savoir de la vitesse si on a, s'il n'a pas été stoppé? Il y a quoi de mal à ce qu'il soit stoppé? Imaginons, là, il combat contre Curtis Blaydes. Bon, il s'est fait amener au sol, il est en dessous, il pense qu'il va pouvoir sortir les hanches et attaquer en escalier, aller chercher une soumission, mais il se prend des marteaux d'enfer, des coups de coude et tout, il perd le combat. Bon, il y a eu quoi? C'est un jeune qui vient de perdre un combat, qui va se refaire. Quoi, Cyril a perdu le combat, il y a eu quoi? Ben, il revient, il va se refaire, il va remonter, parce qu'il y a besoin de monde pour combattre de toutes les façons. Si tu es jeune, tu es encore solide, l'ancien, le russe là qui continue à combattre, je sais pas, il a 47 piges.
C'est horrible. Qui n'est plus à l'UFC du coup depuis.
Oui, ouais. Qui a affronté Olenik.
Olenik, voilà. Alexei Olenik. Ouais.
Voilà, tu vois bien que Olenik, il est limite handicapé. Au moment où il s'en va de l'UFC, il est amoindri.
Alors c'était compliqué, oui.
Il devient, même pour les déplacements simples, ça devient compliqué. Bon, imagine ces jeunes-là. Tu penses qu'il va où, Almeida? Il va nulle part. Il va perdre, il va gagner, il va perdre, il va gagner. Il est battu dans du granit. Il est super solide. Qu'est-ce qui va lui arriver? Finalement, il va devenir un coach. Il va battre tout le monde. Il sera invincible. Et ensuite, il y aura la décadence où il va se mettre à perdre et sortir de l'UFC. C'est le même sort qui attend tous, quoi. Il n'y a pas la magie. C'est le même principe. On sait comment ça va. Donc, Thomas Spinal, il va passer par là. Cyril va passer par là. Et puis, Pavlovich va passer par là à un moment donné.
Ok, bien. Branche UFC Paris terminée. Ça, quoique, dernière petite question. T'auras combien d'athlètes à l'UFC Paris, du coup?
Je t'ai dit, je
non, mais si ça a évolué, c'est pour ça. Voilà.
J'espère la finalisation de 5 personnes.
Oh. C'est quoi le record UFC?
Le record UFC.
De coach, un gars qui est coach sur le nombre de gars coachés. À une soirée.
4.
qui a le record? Tu sais ou pas?
C'est la... Comment ça s'appelle? Alpha Male.
Ok, waouh. Et là, blague à part, on revient vite fait ça. 5, en vrai, ce serait hardcore, non? Parce que ça fait 5 games, enfin, où en gros, là, pour le coup, tu vas déléguer à mort et tu te concentreras sur...
On a toujours délégué.
Oui, mais...
C'est vraiment, contrairement à ceux qui croient le contraire, on a fait que ça, déléguer. Sur l'UFC Paris, c'était déjà un record d'avoir 3 athlètes. On aurait pu avoir 4 s'il n'y avait pas eu la blessure de Taylor Lapillus, mais tout était délégué de manière très propre. On est habitué maintenant à déléguer. On est quasiment les seuls organisateurs en France qui ne coachons pas nos athlètes pendant qu'ils combattent. Mais parce qu'on sait déléguer.
Mais après, quand je dis ça, c'est généralement toi qui es le plus vocal pendant les combats. Genre, enfin, je veux dire, 5 combats, potentiellement, ça fait, enfin, tu peux faire toute la main card. Ta fight week, là, comment ça pourrait se passer? Parce que tu devrais être dans ta bulle, parce que t'expliques justement que c'est important d'être hyper, enfin, tu vois, d'avoir un coup d'avance et tout. Et là, je pense que, enfin, tu vois, plus tu vas avancer dans la soirée, plus peut-être tu seras pas fatigué, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, tes sens seront amoindris.
Parce que tu t'es fait en avance, c'est-à-dire qu'à l'heure, si, on a déjà les stratégies pour 3 d'entre eux. Donc ça avance beaucoup. Donc ça avance beaucoup, on sait à peu près ce qu'on veut et on sait qui sera dans le coin en assistant. Ça veut dire que même quand je fais tous les coins comme je l'ai fait sur le dernier UFC, on a un système d'économie d'énergie. Quand j'arrive sur le combat de Nassourdine, par exemple, vous avez remarqué que vous entendez moins ma voix. Et vous entendez plus la voix de Daguir. Parce que Daguir et moi, on a un code où on donne des consignes. Lui, il les donne en russe. Moi, je les donne en français. Je les donne sans mettre du volume pour économiser les cordes vocales. Et je lui fais un pincement sur le genou pour amplifier ce que je dis de façon à ce que je puisse garder cette voix que j'ai donnée. Et quand c'est avec William Gomis, c'est Grégory Babin qui donne l'intonation forte. Et donc, du coup, je vais progressivement donner des instructions avec une stratégie d'économie de la voix pour la garder tout au long des 5 combats. Ensuite, j'ai la chance d'avoir été formé sur l'échauffement et l'entraînement des cordes vocales. Et donc, du coup, je me casse de moins en moins la voix maintenant parce que je ne savais pas. Il y a pas mal de choses que je ne savais pas sur les muscles des cordes vocaux, des cordes vocales. Et aujourd'hui, je commence à capter ce qui se passe. Et on a même fait un module de formation dessus, sur le coaching et sur la gestion de l'extension de voix, qui est sur FMC. D'ailleurs, je profite pour le dire à tout le monde, vous êtes nombreux à me poser des questions sur les contenus, sur certains points. Rappelez-vous, quand vous allez sur la bio de mon Instagram, Fernand Lopez, vous avez dans le lien bio un lien qui est marqué si vous voulez aller plus loin, si vous voulez devenir, si vous voulez vraiment aller sur le haut niveau, vous cliquez sur ce lien et vous allez vous inscrire à tout type de formation. Vous avez dessus à choisir, juste vous inscrire et vous allez dire ce que vous souhaitez comme thème, comme sujet, et on va vous orienter vers une formation qui vous va. Ce sont des cours de formation super simples. Votre CPF va vous aider à financer la formation. Ça va très vite. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous sur le lien en bio et puis prenez cette information pour aller plus loin. Parce que pendant qu'on discute, il y a des personnes qui... On pense souvent qu'on ne donne pas que les informations ne sont pas reçues, mais franchement, c'est fou le nombre de personnes qui sont très réceptives de ce qu'on donne comme instruction et comme conseil, comme pédagogie. Et pour ces personnes-là, j'ai créé ces liens-là pour aller plus loin, pour aller sur le haut niveau. Comment on fait pour comprendre ce qui se passe. C'est les thèmes surtout, sur du management, sur du commerce, sur l'entrepreneuriat, il y a à peu près tous les thèmes. Et on aborde justement ce truc sur le coaching et l'aspect de comment gérer et déléguer pour que je puisse être sur tous les coins, alors que la préparation se fait tout le temps en parallèle. Je vais accompagner les gars progressivement. Ce qui est bien, c'est que ça se fait un peu comme dans un hôpital où il y a des externes. Il y a des mecs qu'on appelle externes et en gros, ce sont des gars qui vont sortir dans quelques années des professeurs, des médecins, des professeurs. Mais entre-temps, ils sont encore externes et ils font les études au même moment où ils soignent les gens. Parce que ce qu'on fait avec nos coachs, on les accompagne sur toute la préparation, sur les analyses vidéo de leurs combattants, des adversaires de leurs combattants, sur les soins apportés dans le coin, la manière de donner les consignes, quelles consignes donner, quels mots choisir, tout est fait en détail et vous aurez les détails de tout dessus. C'est fascinant.
Damn. Oh my. Et en parlant de management, Fernand, là justement, sans transition, le 23 juin prochain, il y a quelqu'un qui a un bilan de 6-0 qui affronte un autre combattant au bilan de 32-16. Comment ça a été possible ça? Est-ce que pour toi c'est un véritable pari? Comment ça s'est passé? Est-ce que, non, avec la fédération, je crois que c'est moins de 5 combats, c'est ça si je ne m'abuse?
En gros, maintenant la fédération dit, à partir du moment où on a plus de 5 combats, on passe en élite. De toutes les façons, tu peux affronter quelqu'un qui a 100 combats si tu as plus de 5 combats. Et donc, on a profité de cette opportunité et c'est tout ce qu'on demandait pour pouvoir placer des adversaires forts à nos gars sur Arès qui étaient forts. L'idée, c'est d'avoir une transmission de flambeau, si ça se fait. C'est d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a combattu à l'UFC et qui, aujourd'hui, est amoindri en termes de physique, de fraîcheur, quand il y a de l'autre côté quelqu'un qui a très peu d'expérience, qui s'appelle Basango Baki, et qui va plutôt lui arriver avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de pêche, il a des dents qui rêlent au parquet, et il veut juste en découdre, il a fait des pieds et des mains pour prendre ce combat. Parce que, Efren Escudo, il a quand même été capricieux. C'était difficile. C'était, quand le combat a été annulé et qu'il n'était plus une ceinture, parce que Efren disait que c'était risqué pour lui de perdre trop de poids pour aller à 77 kilos. Baki aurait pu dire non, je veux pas. Il a dit, moi c'est bon, je ne vais pas le laisser partir. Il y a 200 places à prendre à laquelle je vais tenter. Le gars est classé 200 places au-dessus de Baïsanko et c'est là ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que Baïsanko n'a pas croqué un morceau de viande difficile à mâcher? On le saura le 23 juin.
Vraiment? En vrai, tu penses?
Ben, je le répète encore. Le combat, le management, il y a une époque, certains pensaient que le management, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui est faible et lui mettre quelqu'un de faible. Mais tout ce que tu fais, c'est que tu affrontes des gens faibles qui ne te font pas grandir, qui ne te font pas prendre d'espérance, mais surtout qui ne te font pas monter au haut du classement. Pour monter, c'est comme le film Highlander, la série Highlander. C'est parce que tu coupes la tête que tu prends le pouvoir de ça qui tu as coupé la tête. Et donc, grosso modo, on prend le cas de Lazy King, Abdul Abduragimov, qui monte à 84 kilos pour aller affronter le Polonais. C'est un risque de malade. Mais ce risque-là, tu ne le prends jamais si tu n'es pas entraîneur et manager. C'est parce que tu es capable d'être auprès des athlètes, de voir comment ils s'entraînent, de connaître leurs points forts, leurs points faibles, que tu peux prendre juste au-dessus. Et on a frôlé la correction avec Abdul. Parce qu'on a pris juste au-dessus, mais on a soupçonné qu'il y avait un peu au-dessus encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prudent. Et que je sais que un jeune comme Baki, il a ses rêves. Et l'ancien qui est Efren Escuedo, l'américain, il n'est pas bête. Il sait où on l'amène. Il a compris qu'on veut l'utiliser comme un tremplin pour faire connaître Arès et pour faire connaître Baïsanko. Et il a l'intention de gâcher la fête. Il est résolu à mettre la clim dans la salle du Dôme de Paris le 23 juin. Donc, je ne suis jamais sûr tant que le combat n'a pas commencé et ne s'est pas terminé. Je pense que le combat va être assez équilibré avec d'un côté beaucoup d'expérience, un peu de force, de l'autre côté moins d'expérience, beaucoup de force et des qualités physiques.
Et au niveau du co-main event, on a Dagir Imavov qui est enfin de retour contre Geraldo de Freitas. Où est-ce qu'on en est avec Dagir? Est-ce que le cap UFC qui a longtemps été dans le radar, est-ce que là on est toujours là-dessus ou est-ce qu'on a basculé vers une carrière un peu plus plaisir?
Non, on est toujours dessus. Okay. Je parlais de lui avec l'UFC il y a quelques jours encore. Il est dessus, ils le connaissent, il observe, il le regarde. Non, il est dessus, il a faim, il a envie. Je pense que c'est aussi son frère voir son petit frère exceller, avancer, parce que quoi qu'on le dise, hein, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'il excelle. Il excelle dans son ligne. C'est que on parle d'une catégorie où il y a du monde et Nassourdine arrive à être classé 12e mondial. C'est pas un jeu, c'est pas n'importe quoi. On parle d'une catégorie où des Américains nés aux États-Unis, vivant là-bas, comme Edmond Shabazian, se sont brûlés vis-à-vis de Nassourdine, comme voilà quoi, enfin, comme des top comme comment il s'appelle celui qui a perdu, qui était le 20e contre Nassourdine. Voilà, mais en gros, voilà, il apporte de l'espoir de son côté dans sa famille, et sa famille, c'est Dagir, quoi. Et donc, Dagir, c'est un grand combattant, et je pense que, même si au bout d'un moment, il a commencé à s'ennuyer, qu'il attendait il attendait l'UFC pendant longtemps, parce qu'il a été pendant un bon bout numéro 1 chez les 70 kilos en France, numéro 1 chez les 66 kilos en France, Dagi Imamov. Et bon, il a commencé à avoir une perte de motivation, mais là, il est reboosté comme jamais parce que il voit son frère qui est capable de remonter la pente, d'aller titiller les grands noms, où les gens, ça ne représente rien. Mais quand tu vois ton petit frère en train de combattre à l'UFC contre le numéro 7 mondial, et tu sais que ton petit frère, on dit qu'il a un souci de cardio et qu'il remonte la pente et il met la pression. Au septième mondial, au cinquième round, tu dis espoir et tu dis bon, c'est dommage, peut-être qu'il était en dessous et tu le revois revenir et il gère mentalement. Je pense que c'est une grosse source de motivation pour Daguir. D'ailleurs, l'investissement que Nassourdine met pour son frère, ça montre juste les espoirs qu'ils ont. Là, on a Nassourdine qui vient souvent accueillir les spectateurs de Arès à 18h devant le Dôme de Paris où il signe, il fait des autographes et des photos. Bah, cette fois-ci, il ne sera pas là, Nassourdine, parce qu'il sera déjà dans les vestiaires en train de préparer son frère mentalement, psychologiquement, physiquement. Et donc, vous aurez rendez-vous, si vous êtes là à temps, dès 18h avec Cyril Gane et William Gomis. Donc, vous aurez l'occasion de faire des photos, des signatures, si vous êtes là, à 18h au Dôme de Paris, le 23 janvier.
23 juin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le 23 juin. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas là, vous pouvez regarder le combat en direct sur Canal Plus 360 et sur UFC Fight Pass.
Oh là là, il est en feu. Et pour Daguerre, juste, qu'est-ce qui s'était passé entre le retour d'Arès, donc les débuts d'Arès en France avec Arès 2, et aujourd'hui, c'était quoi? C'était des blessures? Qu'est-ce qui a fait qu'il a aussi longtemps été absent?
Des motivations. C'est okay. Plus ça. C'est plus, voilà quoi. C'était des petits boulots, mais en réalité, c'est, des motivations. On n'est pas passé loin de l'UFC. On a eu on n'est pas passé à un moment donné loin de l'UFC. Je pense que redémarrer, il a eu un coup de mou dessus. Et puis, c'est un heureux papa. Il était devenu papa, la famille s'est agrandie, donc il a mis un peu d'énergie dessus. Et là, il est de retour comme jamais.
Et est-ce que, parce que le combat précédent, c'est Aliou Naï contre Pedro Colman. Pedro Colman qui devait affronter Morgan Charrière au Cage Warriors. Et puis Aliou Naï qu'on ne présente plus. Est-ce que là, il y a quelque chose qui commence à se tramer pour cette catégorie featherweight? Ou pas?
Oui, là on approche le moment où on va.
En gros, les deux vainqueurs s'affrontent, c'est le plan ou non?
Possible. Ça fait partie du champ des possibilités. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. J'ai besoin de laisser il y a plus que 4 jours à attendre. C'est pas, sois patient. Dans 3, 4 jours et tout, on a le combat. Même pas 3 jours, au Dôme de Paris, le 23 juin, vous aurez le combat. Et donc, on saura, on va, dès la presse conférence, je vais probablement avoir une idée de ce qu'on va faire.
Ok. Et tu changes un peu ton fusil d'épaule là concernant les affrontements entre deux membres d'une même team, parce que c'est vrai que Daguir et Aliou Naï représentent le MMA Factory.
C'est du cas par cas.
Ok.
Il y a des gens dans la même team qui sont très proches et donc du coup c'est mort. Et puis il y a des gens dans la même team qui sont bien, qui se respectent beaucoup, qui vont accepter de s'affronter et de rester amis après l'affrontement. Donc c'est toujours dépendant. Mais en général, quand ça concerne ma team, moi je le fais dans la plus grosse transparence. J'appelle je fais un three-way, j'appelle à la fois au même moment les deux protagonistes et je leur dis l'idée en disant j'ai appris que ce combat serait intéressant pour certaines personnes, pour vous. Est-ce que ça vous dit? Je vous assure, je ne serai ni dans le coin de l'un ni dans le coin de l'autre. Je vais vous laisser choisir et composer vos teams. Vous serez entraîné correctement et vous allez chacun jouer sa partition. Et ensuite, tout ce que je vous demande, c'est que ça reste dans l'harmonie totale pour qu'il y ait l'homéostasie dans la salle, quoi, qu'on reste en équilibre. Et si jamais il y a le moindre doute et que vous ne vous sentez pas confortable par cette décision, je ne veux pas que l'équilibre et la paix du club en pâtissent. Venez, on arrête le projet tout de suite. Et donc, les deux s'expriment au même moment. Et il n'y a pas de tel a dit que tel a dit qu'il veut t'affronter et l'autre, voilà, je ne fais pas des trucs où je vais monter la sauce et tout. Il y a déjà eu des affrontements qui ont été avortés parce que les deux se sont parlé, ils ont dit bon non, on préfère laisser passer.
Alright, il y a aussi, alors voilà, ce combat-là. Est-ce que donc entre Virgil Haugen et Mantas Kondratavicius, est-ce que là c'est un combat où on est sur du 50-50?
Gros combat devant l'éternel. Celui qui sait, bien malin sera celui qui sait, qui peut pronostiquer ce combat. Je ne peux pas. Attention, j'adore Virgil Haugen. C'est l'un des gars les plus prometteurs. Mais je vous promets, mais regardez Mantas. Regardez son combat, c'est un problème. Là, la manière dont Virgil Haugen va résoudre, s'il réussit à le faire, le problème Mantas va le mettre sur une autre dimension. C'est un vrai problème.
Okay.
C'est un jeune combattant qui n'a que deux combats, mais j'ai regardé, j'ai analysé ses vidéos, ce n'est pas simple.
Les deux sont à 4-0, et l'autre combat où pour moi il y a beaucoup beaucoup de suspense, c'est, et je suis curieux en fait de voir que ce soit donc Virgil Haugen contre Mantas, et donc Donatello, donc membre du MMA Factory, et Hugo Guillon qui représente la BTT, comment est-ce que tu arrives à mettre en place des combats comme ça entre à chaque fois deux mecs qui sont, enfin, donc, pour les deux combats, où à chaque fois, c'est des gars très prometteurs, qui ont des mêmes ambitions, et au même moment dans leur carrière. Genre, comment ça se passe avec les managements, et eux, comment ils se sentent par rapport à ça? Parce qu'ils savent bien... Vas-y.
Parce que les managers jouent le jeu. Les managers jouent le jeu. Resilience Management, aujourd'hui, ils font du bon boulot, et ils savent que le management, le vrai management, c'est de trouver un athlète qui va apporter de la compétition à ton élève et qui va lui apporter du classement et de la visibilité. Quand il y a un beau combat, tous les deux sont gagnants, tous les deux prennent une lumière et le vainqueur encore plus de lumière. Donc c'est un pari. Les gens te demandent de croire en eux. Les jeunes arrivent à ton organisation, ils te demandent, crois en moi, je suis un tueur. Je vais tout fumer, j'ai envie de combattre et tout. Ensuite, tu lui proposes un combat, il dit « Non, pas celui-là, mets-moi un tel et tout, mets-moi un tel. » Mais non, tu veux que je croie en toi, toi déjà, crois en toi-même déjà. Investis sur toi-même. Et les bons managers savent le faire. Ils croient en leur gars, ils investissent sur leur gars et ils prennent des risques. Enfin, tu ne vas pas me dire que tu es un bon, que tu veux faire ci, ça, et tu n'es pas capable de croire en toi-même. Donc aujourd'hui, on a... un match où j'ai l'impression que le manager du Hugo Guillon croit en lui très fortement pour le mettre face à un gars comme comment il s'appelle
Donatello
du coup tu te dis je suis curieux de voir le combat, j'ai l'impression que, enfin ce n'est pas, j'ai pas l'impression, je sais que Aldric Asata croit beaucoup en Virgil. Et moi aussi, je crois beaucoup en lui. C'est l'un des meilleurs espoirs français. Et j'apprécie le fait qu'il croit tellement en lui qu'il soit capable de le mettre contre un mec qui va le mettre en danger. Je vous garantis que Mantis va mettre Virgil en danger. S'il ne le met pas en danger, même pas à un moment donné, alors c'est quasiment sûr que Virgil finit dans le top 10 de l'UFC au calme.
Ok monsieur, et puis oui, on note aussi les débuts d'Axel Solam, même si c'est vrai que là, moi je trouve que c'est plus un, on va dire, un matchmaking de rentrée habile de la part de Fernand, pour dire ça y est, on démarre la machine. Je pense qu'il y a un peu moins de suspense que sur les autres combats, me trompe-je?
C'est ça, sur le papier, on devrait avoir moins de suspense, normalement, parce que, attention, on a cherché, hein. On a donné, hein. On a tout donné. Mais trouver un adversaire à Axel, c'est un problème. Hein. C'est vraiment un problème. On a tout donné ce qu'on pouvait. D'ailleurs, le match prévu à la base, c'était à 77 kilos. Et donc, quand on drop et qu'on arrive à 66, les gens libres sont... Il y a un match que j'aurais voulu faire qui était ultra excitant pour moi. pour Pâle contre Axel Solin.
Mais.
Mais Topal descend, il change de catégorie. Parce qu'il est facilement à 60, à 70 kilos et il décide de descendre à 66 kilos. Il a déjà fait le test, il est arrivé, donc il y va. Mais c'est dommage parce que Axel Solin, Topal, combat d'année au calme. Sait-on jamais? Peut-être que si on met un truc comme une ceinture, ça va les exciter. Peut-être qu'ils seront mieux, plus motivés que ça. Tiens. Mais en tout cas, grand espoir du sport français. Et j'ai hâte de le découvrir sur le sol français, sur un vrai combat de MMA sur le sol français, pour voir ce que ça donne.
Et tout dernier point, Fernand, avant de te laisser tranquille. Iliane Boafia, tu nous en as parlé déjà il y a quelques semaines, qui fait ses débuts contre un Portugais. On en est où en termes d'attente pour lui? Et là aussi, est-ce qu'on est, selon toute vraisemblance, sur début d'histoire et montée en puissance?
Je n'ai pas envie de...
Oui, tu n'as pas envie de le jinxer parce que c'est... Voilà. Ouais, ok.
J'évite de trop en dire.
Bah, il a quand même eu droit à son embedded.
Ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup. Et si je dis que j'aime beaucoup son style, sportivement parlant, ça veut dire beaucoup de choses. Vraiment, j'aime son style. Voilà quoi. C'est, humainement, c'est un bon gars. Humainement, professionnellement, extrêmement facile à dealer. Très intelligent. Il va très vite. Il capte rapidement. Il n'y a pas besoin de beaucoup discuter longtemps. Enfin, ça va très vite. Ça se voit que dans la famille, c'est du sport de haut niveau. Ils sont habitués à des négociations de haut niveau. Ça, c'est bim bam, et ça va très vite, ça avance. Et sportivement, moi, à mon petit niveau, il m'a impressionné. Je l'ai vu en sparring au MMA Factory avec les plus grands. Et il m'a impressionné. Je ne veux pas en dire plus. Peut-être qu'il va vouloir. Peut-être que Cyril. Ah, il y a un truc. Demain, Cyril le reçoit sur sa chaîne Twitch, je crois. C'est ce soir ou c'est demain, je sais plus.
C'est demain, je serai demain. En tant que présentateur, monsieur.
Ah bah je parle au monsieur. Parle au monsieur qui est au boss et je ne me rappelle même plus. En tout cas, je pense que Cyril a de quoi dire sur lui. C'est pas à moi de le dire, mais je pense que Cyril peut dire des choses sur Iliane Boafia. Mais moi, perso, il m'a impressionné.
Eh bien, très bien. Arès, volume 16, 23 juin, ce vendredi. Il reste quelques places, ça se passe au Dôme de Paris, comme à chaque fois. Ticketmaster est votre ami. Fernand, on se retrouve là-bas d'ici la très bonne semaine. Puis à la prochaine.